Vous écoutez
RMC.
Lundi 8 juin,
l'info sur RMC.
Il est 8h, presque une minute. C'est Céline Kallmann qui est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Certaines armes utilisées par les forces de l'ordre sont dangereuses et doivent être retirées. C'est ce que préconise ce matin le défenseur des droits qui rend son rapport annuel explication dès le début de ce journal. Le corps de George Floyd est arrivé à Houston, Texas, la ville où il a grandi. Ses obsèques sont prévues demain. Le candidat démocrate Joe Biden va rencontrer sa famille ce soir. Et puis un chantier titanesque, à partir d'aujourd'hui, le démontage de l'échafaudage de Notre-Dame, endommagé lors de l'incendie, 200 tonnes de tubes métalliques à évacuer. Bienvenue à tous sur RMC. La police en France doit-elle changer sa manière de travailler? Doit-elle se débarrasser de certaines armes utilisées lors de manifestations? Eh bien, c'est ce que pense le défenseur des droits Jacques Toubon, qui publie son rapport annuel aujourd'hui, alors que le monde est secoué par des manifestations contre les violences policières. Bonjour Benoît Ballet.
Bonjour.
Jacques Toubon le dit clairement, certaines pratiques de la police ou de la gendarmerie sont illégales.
Oui, à commencer par la technique dite de l'encagement ou de la nasse, une technique utilisée par les forces de l'ordre lors d'une manifestation pour empêcher des individus de sortir d'un périmètre donné, une privation de liberté sans cadre juridique, écrit Jacques Toubon. Autre manquement à la déontologie, le transport de personnes d'un lieu à un autre pour procéder à un contrôle d'identité déporté, selon les mots du défenseur des droits, qui se fait la plupart du temps sans que l'autorité judiciaire en soit informée. Le port d'un casque de moto intégral, casque qui ne laisse qu'une petite partie du visage visible, tout comme le port des cagoules par les forces de l'ordre, sont des pratiques également dénoncées par Jacques Toubon. Cela empêche l'identification des agents en dehors, là aussi, de tout cadre réglementaire. Enfin, Jacques Toubon recommande à nouveau le retrait des grenades de désencerclement et du lanceur de balles de défense de l'arsenal des forces de l'ordre.
Benoît, est-ce que ce rapport peut changer les choses?
On peut l'espérer, mais le rapport de Jacques Toubon incite plus au pessimisme qu'autre chose. Le défenseur des droits observe que depuis le début de son mandat, il y a 5 ans, ses recommandations sont restées lettres mortes. Un exemple, Céline, sur 36 dossiers qui ont fait l'objet de demandes de poursuites disciplinaires de la part de Jacques Toubon, aucune de ces demandes n'a été suivie d'effet.
Merci Benoît. Et c'est dans ce contexte que l'IGPN, la police des polices, publie son rapport annuel ce matin. 19 personnes sont décédées lors d'une intervention de police en 2019 contre 17 un an plus tôt. Sur les 1460 enquêtes judiciaires confiées l'année dernière, 868 portent sur des violences volontaires. C'est un chiffre qui a bondi de 41% par rapport à 2018. Frédéric Potier, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, a réagi ce matin sur RMC. Pour lui, les autorités ont tout intérêt à être totalement transparents.
Ça montre bien qu'il y a une instance de contrôle. Ça montre bien qu'il y a des contre-pouvoirs au sein même de la police.
Mais le contrôle existe. Mais est-ce que les sanctions sont réelles?
Moi, je crois qu'elles sont réelles. Je ne crois pas que l'IGPN soit particulièrement laxiste. Simplement, peut-être qu'on n'en fait pas assez la publicité. Donc, moi, oui, je pense que ça va dans le bon sens d'apporter un peu plus de transparence sur ces questions-là. On a quand même intérêt à faire toute la transparence sur ce type de questions, sur le nombre de condamnations, sur la sévérité de ces sanctions. Parce que lorsqu'il y a des actes très graves, ils sont aussi sanctionnés de manière très dure et ça peut aller jusqu'à la vocation.
Sur ces questions et d'autres, Éric Ciotti sera mon invité tout à l'heure à 8h30, spécialiste de ces questions aux Républicains. Et demain, je vous annonce la présence de Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, qui sera mon invité sur RMC et BFM TV.
SOS Racisme appelle à une nouvelle manifestation demain à Paris à 18h, place de la République, contre les violences policières, contre le racisme. Jour des obsèques de George Floyd, cet Afro-Américain tué par un policier blanc il y a 2 semaines et dont la mort a provoqué une onde de choc mondiale. Jean-Bernard Cadien, un nouvel hommage est prévu ce soir à Houston, au Texas.
Le corps de George Floyd est déjà arrivé ici à Houston, la ville où il a passé la plupart de sa vie, la ville où il a grandi dans un quartier extrêmement pauvre, la ville où il a joué au basket, la ville aussi où quand il était lycéen, il avait dit un jour « Je voudrais faire quelque chose de ma vie, je voudrais changer le monde ». On attend beaucoup de monde pour ces obsèques qui devraient se dérouler en 2 temps. D'abord, ce lundi, le cercueil sera exposé ici, dans cette église, au public, et puis mardi, les obsèques proprement dites dans l'intimité familiale, puis il sera inhumé dans le cimetière où repose sa mère qui est décédée il y a 2 ans. Joe Biden, le candidat démocrate à la présidentielle, sera à Houston ce lundi. Il va rencontrer la famille ce lundi. Il va enregistrer un message vidéo pour les obsèques, mais il n'assistera pas aux obsèques. Il dit qu'il ne veut pas déranger la famille avec ses gardes du corps.
Et on a appris la nuit dernière que la municipalité de Minneapolis avait décidé de démanteler sa police. Un nouveau modèle de sécurité publique va être mis en place. RMC, 8h05, l'épidémie est sous contrôle. Le nombre de victimes de Covid-19 continue de diminuer en France. 13 morts ces dernières 24 heures à l'hôpital. Mais pour l'instant, toujours pas d'allègement des conditions sanitaires à l'école. Totalement illogique pour de nombreux parents dont les enfants ont école parfois un ou deux jours seulement par semaine. Le conseil scientifique et le gouvernement sont pourtant d'accord. Il faut alléger les mesures. C'est la volonté aussi de cette prof de sport interrogée par Nicolas Repère.
Professeur de PS dans la Manche, Fanny Le Cam retrouve aujourd'hui pour la première fois ses élèves avec un programme très restreint.
On a pu mettre en place des activités telles que la course d'orientation et puis effectivement on va pouvoir travailler sur tout ce qui est renforcement musculaire en musique.
Des activités sportives qui ne nécessitent pas de contact entre les élèves, mais l'enseignante plaide pour un allègement des mesures sanitaires.
Si effectivement on peut faire un petit peu plus de sport collectif, du football à l'extérieur, de handball également, du basket, ce serait vraiment bienvenu parce que les élèves apprécient être au sein d'une équipe, tout simplement le vivre ensemble.
Cet assouplissement ne permettrait pas d'accueillir plus d'élèves, estime Philippe Vincent, secrétaire général du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale.
Comme l'essentiel de la difficulté tient au groupe limité à 15 et aux 4 mètres carrés dans les espaces salles de classe, c'est vraiment ce problème-là qui doit être traité un jour ou l'autre si on estime que c'est nécessaire.
Pour lui, il est encore temps de changer ses règles d'ici la fin de l'année scolaire.
D'aujourd'hui, il est à nouveau possible de se rendre au Royaume-Uni, mais il y a des conditions très strictes. Là aussi, respecter un isolement de 14 jours et préciser son lieu de résidence durant toute cette période. Des contraintes insupportables pour ces voyageurs rencontrés par Thomas Chupin, garde du Nord.
L'une des conséquences très concrètes de cette mesure, c'est la séparation d'un couple franco-anglais. Devant l'Eurostar à Paris hier, Clarisse laissait partir Brandon en urgence pour éviter la quarantaine.
Oh, je déteste ça. Je pense que ça aurait dû être fait il y a 2 mois. Mais oui, je dois partir plus vite que prévu.
Moi, j'ai annulé mon voyage pour pas avoir à rester 14 jours enfermée.
Isabelle, elle vit en Angleterre depuis 10 ans. Elle ne reviendra pas en France avant fin juin. Trop de contraintes à son retour à Londres.
On doit donner une adresse quand on rentre. Il y aura des contrôles à cette adresse, assez fréquents. On risque 1000 pounds d'amende si on ne reste pas à cette adresse. Ben, c'est un peu plus de 1000 euros.
Et puis, il y a des conséquences pour les travailleurs qui font des allers-retours Paris, Londres, très souvent. Fabrice, par exemple.
Avant la crise du Covid-19, je venais 2 jours toutes les 2 semaines à Paris. Mais là, ça me manque. Moi, j'aimerais bien retourner voir les équipes à Paris.
Patron d'une start-up spécialiste de la création de logiciels, Fabrice Bernard a bien conscience que c'est un nouveau coup porté à son pays d'adoption.
Déjà, le Brexit, ça a quand même mis un coup sur la tête à beaucoup de gens. Il y a beaucoup moins de Français qui viennent s'installer à Londres. Là, avec cette deuxième crise par-dessus, ça va vraiment pas aider.
Ouais. Et Fabrice est aussi un jeune papa. Il espérait présenter son fils Louis, âgé de 2 mois, à ses parents. Il lui faudra encore attendre.
Le confinement, eh bien, c'est l'ami du petit déjeuner, Jean-Jacques. Un Français sur deux dit avoir mangé plus équilibré pendant cette période. C'est le résultat d'une étude Opinionway pour Lactel, qu'RMC vous dévoile ce matin. Mao Becker-Granier.
Pendant le confinement, Aya, 6 ans, a passé beaucoup plus de temps à manger ses tartines et ses céréales le matin.
Avant le confinement, on se dépêchait pour après faire les activités. Et là, on mange un petit peu doucement.
La maman d'Aya, Selma, confirme les petits déjeuners ont été plus fastueux, mais aussi de meilleure qualité.
Moins d'aliments transformés, j'ai l'impression. On ouvrait moins de boîtes aussi. Beaucoup plus qualitatif et plus sain. Mais bon, après, comme on prend le temps de manger, on mangeait peut-être un peu plus que d'habitude.
Et si les parents veulent que leurs enfants continuent d'accorder de l'importance au premier repas de la journée, il va falloir faire quelques sacrifices pour que ces bonnes habitudes restent. Albert Moukébert est docteur en neurosciences.
Essayer de mettre en place des choses qui nous permettent de prendre ce temps le matin. Par exemple, reprendre le boulot un peu plus tard. On essaye de trouver une sorte de modèle intermédiaire entre ce qu'on faisait avant et qui était pas très bon pour les petits déjeuners, par exemple, des enfants, et ce qu'on a fait pendant le confinement, qui était une extrême qu'on peut pas tenir dans la durée, et voir si on peut trouver quelque chose qui entre les deux.
Pendant le confinement, un enfant sur deux a pris plus souvent que d'habitude son petit déjeuner.
40 000 pièces métalliques vont être évacuées à partir d'aujourd'hui. Démontage à haut risque de l'échafaudage de Notre-Dame de Paris qui se trouve à plus de 40 mètres de haut. Des filets ont été tendus sur 3 niveaux. L'échafaudage avait commencé à être monté en 2018 pour la restauration de la flèche. Capucine Bouillot.
Un échafaudage de 40 000 pièces de métal, dont la moitié se situe à plus de 40 mètres de haut pour un poids total de 200 tonnes. Une opération très délicate, réalisée par 10 cordistes répartis en équipes de 5 pour pouvoir se relayer. Ils partiront d'un deuxième échafaudage monté spécialement pour cette opération un peu plus en hauteur. Encordés, ils pourront donc descendre au plus près des parties calcinées de la structure et découper avec de puissantes scies les tubes métalliques fondus les uns sur les autres à cause de l'incendie. Les éléments extraits de l'échafaudage seront ensuite évacués par une grue de 80 mètres. C'est la troisième et dernière phase de sécurisation du site, déterminante pour entamer ensuite la restauration à proprement parler de Notre-Dame de Paris.
Et puis une info rugby, Jefferson Poirot, pilier gauche des Bleus, annonce sa retraite internationale à seulement 27 ans. Le joueur de l'Union Bordeaux-Bègles veut désormais privilégier sa vie privée.
8h11, merci beaucoup Céline.